5, 4, 3, 2, 8 et top.
L'Auberge espagnole sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Un artiste, qu'on va dire au sens du terme large.
C'est la grosse nouveauté de l'économie sociale, a du sens.
On est loin de l'abrogation totale des gaz de schiste en France.
Moi, trash, ça va être pégueux, je pense.
L'idée, c'est de sortir de l'ordinateur.
Tout le truc que je kiffe.
Jardin sec, pourquoi le faire? Quels sont les coûts?
On reconnaît la langue du cinquième élément.
Vraiment un mur de guitare, comme un souffle atomique.
Un public habitué.
C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les entrepreneurs d'identité.
Bah, c'est super, on voit que les motards se mobilisent.
C'est gratuit et on ne vend rien, c'est neutre, donc profitez-en.
L'Auberge espagnole, une émission de la rédaction de Divergence FM, présentée par Gilles Couget.
Tout l'an 2012, ça va se travailler, puis début 2013, on lance ça en France.
Eh oui, on lance ça en force, l'Auberge espagnole de ce mardi 19 mars 2013. Démarrera avec un entretien avec Marie-Christine Chaz, présidente de Languedoc Roussillon Livres et Lectures, pour parler d'une série de formations organisées à destination de tous les acteurs, auteurs, éditeurs, libraires et j'en passe, du monde du livre. Et puis on recevra ensuite Lucas et Yumi de l'association L'Ouvre-Tête qui organise la 7e semaine de l'environnement du 23 au 30 mars 2013 sur le campus, une édition de transition. Et puis Vincent Pourageau nous rejoindra pour nous introduire son entretien avec Xavier Mathieu et Jérôme Palto, auteurs du film documentaire La saga des Conti, à voir cette semaine. Et puis on terminera avec Rachid Elarmi de sonorlibre.com qui viendra nous présenter la soirée Electro World Culture de ce 20 mars à l'Antirouille, une soirée en partenariat avec Kangourou Productions qui réunira El Dirty Sonidero, Cosmic Citrouille et Abyssini Club. Pour l'instant, on va ouvrir le livre de premier livre de cette auberge espagnole avec Jaga Jazzist et leur Book of Glass.
Thank you.
Languedoc-Roussillon Livre et Lecture organise tout au long de l'année des formations à destination de tous les acteurs du monde du livre. Entretien avec Marie-Christine Chaz, présidente. Marie-Christine Chaz, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes la présidente de Languedoc-Roussillon Livre et Lecture, une structure née en 2007, issue de la volonté des professionnels du livre, de l'État et de la région Languedoc-Roussillon de créer un réseau d'échanges professionnels au service de la création et de la diffusion du livre. Une présidence à laquelle vous avez été nommée en mai 2010, confirmée en décembre 2010. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez œuvré depuis de nombreuses années au développement de la culture en région. Tout d'abord à travers l'éducation nationale, puisque vous étiez directrice d'école maternelle, en ayant impulsé des actions pour l'enseignement artistique des élèves dès le plus jeune âge, en étant responsable d'un mouvement de recherche pédagogique au sein du rectorat et de l'Académie de Montpellier, vous avez mis en place pendant plus de 20 ans des ateliers autour de la citoyenneté et de la veille démocratique dans les collèges et lycées. Vous avez été élue à la culture à la communauté d'agglomération de Montpellier pendant 7 ans. Vous n'avez eu de cesse de privilégier dans votre carrière l'accès au plus grand nombre à la culture, le croisement des disciplines artistiques, les actions innovantes, notamment le pass multimédia dans les médiathèques, le développement des services éducatifs dans les équipements culturels avec des conventions avec l'éducation nationale et d'autres partenaires. Donc on comprend bien que vous êtes une femme de conviction, que votre palmarès plutôt excellent vous a peut-être aussi valu d'être chevalier de la Légion d'honneur. Cette implication dans cette direction de Languedoc-Roussillon Livre et Lecture, j'imagine que en ces temps où on dit souvent qu'il y a un problème avec le papier, que l'arrivée d'Internet, des supports numériques, etc., finalement, s'occuper du livre en Languedoc-Roussillon pour toutes ces activités, c'est quand même un pari aujourd'hui, puisque il est entre guillemets menacé par la révolution numérique.
Certes, le livre est menacé par la révolution numérique, mais nous sommes là justement pour accompagner au plus près les professionnels. Et surtout, ce qui nous importe, c'est de fédérer tous ces acteurs autour du livre, malgré cette évolution qui bouscule pas mal les choses, et notamment l'économie du livre. Alors, c'est pour cela que nous accompagnons, donc, comme je vous le disais, tous ces professionnels dans la formation continue, parce qu'il y a une adaptation obligatoire et obligée à ce nouveau challenge qui est le numérique.
C'est la raison pour laquelle on vous reçoit. Dans l'actualité, il y a le programme de formation 2013 pour les professionnels du livre et de l'édition en région. 4 formations pour les auteurs, 3 formations pour les éditeurs, 2 pour les libraires, 8 formations sur 7 journées d'études pour les bibliothécaires, 3 formations pour les professionnels du patrimoine, 7 formations interprofessionnelles. À Languedoc-Roussillon Livre et Lecture, il y a aussi cette volonté de proposer des formations propres et puis aussi de servir évidemment de trait d'union avec toutes les carrières des métiers de l'édition qui existent et dont le guide ONICEP en Languedoc-Roussillon est un outil aussi fort utile.
Alors d'abord, les formations pour les professionnels et l'interprofessionnalité, elle est issue de la concertation avec les professionnels et comme je vous le disais, elle répond à tous les besoins et demandes de nos acteurs de la chaîne du livre. En ce qui concerne le guide de l'ONICEP, c'est un partenariat que nous avons eu avec l'ONICEP suite à la création du master Les métiers du livre à l'Université Paul Valéry. Et c'est un guide vraiment qui, me semble-t-il, est simple dans la lecture, parce que ce sont essentiellement des témoignages de professionnels. Et puis, il y a toutes les adresses utiles qui peuvent servir, bien sûr, à nos jeunes lycéens, aux étudiants et aux professionnels du livre. Et les conseillers d'orientation, bien sûr.
Pour ceux qui nous écoutent et qui sont encore dans leurs études, en secondaire, à l'université ou peu importe, on souligne quand même que le fait, depuis la révolution Internet, on a souvent dit le numérique c'est la fin de l'écrit, etc. Sauf que 95% des contenus sur Internet c'est de l'écrit. Donc finalement, il y a plus de débouchés que peut-être les plus jeunes d'entre nous se l'imaginent.
Peut-être pour les plus jeunes, mais il y a des générations qui ne sont pas tout à fait aptes à s'adapter pour l'instant au numérique. Mmh. Alors, ça modifie pas mal de choses. Alors, au niveau de l'écriture, pour les droits d'auteur, peut-être qu'il y a certaines modifications et une vigilance à avoir. Par contre, les pratiques de lecture sont totalement différentes. On ne tourne plus les pages, on fait glisser, on bouge son doigt. Il n'y a plus du tout ce contact charnel avec le livre et ça... Les pratiques de lecture sont modifiées et, comme je vous disais, les générations plus anciennes ont plus de mal, quoique il y a un certain pourcentage qui s'adapte à ces nouvelles lectures.
Ces formations vont se dérouler tout au long de l'année, pratiquement, qu'elles soient à destination des éditeurs, des libraires, des auteurs aussi, souvent sous un format d'une journée ou d'une demi-journée, à travers entre guillemets, des cours magistraux.
Non, bon, y a des experts qui viennent, bien sûr, nous faisons appel à des organismes de formation spécifiques, bien sûr, mais c'est sous forme d'une journée, d'une demi-journée, et bien sûr, il y a l'apport technique d'experts, et il y a des échanges, bien sûr, pour que chacun puisse approfondir sa formation.
Des formations qui sont à destination des auteurs, alors des auteurs dramatiques pour l'écriture théâtrale, qui abordent aussi les points importants d'un contrat d'édition, comment déclarer fiscalement les revenus artistiques, des informations sur les dispositifs de formation professionnelle avec l'AFDAS. La réalité du métier d'auteur, c'est aussi arriver à joindre les deux bouts, parce que ça prend du temps d'écrire un livre, ça prend du temps de le faire connaître et de le faire vendre, et puis après ça prend du temps aussi d'entretenir le lien avec les lecteurs aussi.
D'abord de l'éditer, de trouver un éditeur, et puis bien sûr la diffusion de ce livre-là. Et nous avons créé une charte avec des professionnels du livre, la charte des manifestations littéraires. Nous avons, qui est un cadre législatif et qui donne des règles par rapport à ces manifestations, une identification aussi pour toutes les manifestations littéraires dans la région. Mais en même temps, nous avons essayé d'être attentifs à la rémunération des auteurs, qui sont un petit peu malmenés parfois et pas autant considérés que ce qu'ils souhaiteraient et que nous souhaiterions.
Alors ils sont malmenés, ils l'ont été par le passé, parfois par leurs propres éditeurs. Chaque auteur doit aussi être informé, compétent, vigilant sur des questions qui sont juridiques et qui sont souvent loin des préoccupations de celui qui écrit.
Alors là, à l'échelle régionale, bien sûr, nous essayons toujours d'être dans une situation de veille par rapport justement à la protection de tous ces acteurs de la chaîne du livre et notamment des auteurs. Il y a aussi une fédération interrégionale du livre et de la lecture auquel nous sommes adhérents et qui permet aussi d'être vigilant au niveau national.
Des formations aussi à destination des éditeurs, que ce soit pour éditer des livres numériques grâce au logiciel ebook.lr, développer une activité à l'international, se référencer sur les bases de données professionnelles.
Les éditeurs sont identifiés en région Languedoc-Roussillon. Nous avons édité un annuaire l'année dernière et actuellement nous avons 102 éditeurs dans la région du Languedoc-Roussillon. Donc n'importe qui ne peut pas être éditeur, même micro-éditeur.
Oui, tout à fait.
Ou moins identifié comme tel.
Et puis ces formations sont là justement pour donner des éléments d'avancée et de performance aussi pour ces métiers qui sont en pleine mutation. Les libraires aussi, alors à Montpellier, on est plutôt bien servi puisqu'on a la librairie Sorams qui est un petit peu un fer de lance au niveau national des libraires indépendants et qui arrive à encore le rester tout en étant de taille respectable.
Alors Sorams, c'est une grande librairie, hein. C'est vraiment une référence et régionale et nationale, mais nous avons aussi des petites librairies indépendantes que nous avons essayé de valoriser l'année dernière à travers une exposition chez Mon Libraire, ce n'est pas plus cher.
Absolument.
Conseil est important, mais il est indépendant. Et donc, nous avons essayé de valoriser toutes ces librairies. Mais il faut savoir aussi qu'il y a un problème pour la vente du livre numérique. Comment s'adapter? Que faire pour un libraire, un petit libraire aussi? Il nous semble important. Alors, le livre numérique, c'est immatérialisé. Hein, et pour nous, le libraire, c'est un conseiller, c'est un expert, un passeur de textes. Et comment créer cette relation dans la vente du livre numérique? Alors peut-être qu'elle va exister, mais encore faut-il arriver à un changement de mentalité, une adaptation à cette nouvelle ère du numérique.
Voilà, puis peut-être pour faire une petite parenthèse là-dessus, c'est vrai que quand on achète un livre papier, il nous appartient, le papier, le livre nous appartient en propre, et puis on peut le prêter, on peut le donner à quelqu'un, on peut le léguer à ses enfants, et c'est vrai qu'à travers le modèle des Kindle et des livres numériques, les éditeurs ont tendance à essayer de faire en sorte qu'on paye l'usage, et c'est vrai que là, il y a quand même beaucoup de tensions entre ce modèle économique de faire payer à chaque lecture, plutôt que d'acheter un livre, et puis c'est le mien.
Bien sûr. Et imaginez le livre dédicacé, il n'existera plus. Et le livre dédicacé, c'est bien un livre unique.
Puis le bilan carbone d'une tablette Kindle est quand même assez mauvais par rapport à un exemplaire papier.
Oui, tout à fait. Mais j'aime à citer cette phrase de Robert Darton, cet Américain. C'est imprimé sur du papier ou conservé dans des serveurs, les livres incarnent le savoir et leur autorité découle de bien d'autres choses que de la technologie de leur fabrication. Mais bien sûr, il existe le livre papier avec ce contact avec le libraire et puis ce livre virtuel, numérique, immatériel, qu'on ne pourra peut-être pas dédicacer. Qui sait, peut-être dans une dizaine d'années, il y aura la dédicace sur le numérique.
Je ne sais pas, je crois que le papier, lui, a encore de beaux jours devant lui. Les bibliothécaires, évidemment, sont aussi bien servis par ces journées de formation. Avec, dans le cadre du mois du film documentaire, il y aura déjà un premier rendez-vous le 4 avril, le parcours Bib de la Comédie du Livre, le catalogue au défi du web, les ressources numériques en bibliothèque, les évolutions des catalogues, évolution des bibliothèques, ce qui change concrètement avec l'arrivée de RDA, les bibliothèques innovantes à l'étranger, les ateliers pratico-pratiques de l'ABF, et puis des journées d'études proposées par les bibliothèques départementales de près de la région auront lieu régulièrement à partir du 5 avril jusqu'au 6 décembre. Le patrimoine aussi est concerné, notamment avec une intervention qui aura lieu le 20 mars sur le conditionnement des documents en vue de leur numérisation. Là aussi, c'est un nouveau marché qui s'ouvre.
Dernièrement, nous avons remis officiellement les fichiers numérisés de la presse ancienne régionale de la région Languedoc-Roussillon, donc, qui a été opéré par Languedoc-Roussillon Livre Lecture dans le cadre du pôle associé Languedoc-Roussillon en partenariat avec la BNF et l'État. Il y a plus de 600 000 pages sous 70 titres ont été numérisés. Et cette numérisation de la presse régionale ancienne va être sur le site de la région d'ici peu, je pense.
En accès libre.
En accès libre.
Voilà, ce qui est un petit peu la finalité de toutes ces numérisations.
Accès libre, gratuit et qui va toucher le lecteur lambda. Alors que cette presse ancienne s'adressait plutôt à un lectorat de lettrés.
Paris Inchage, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et puis, on rappelle que c'est LR2L, les chiffres en chiffres, les lettres en lettres, pour retrouver tout ça sur Internet.
Je vous remercie.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Et au revoir. C'était Marie-Christine Chaz, présidente de Languedoc-Roussillon, livre et lecture. À présent, on est en compagnie de plusieurs membres de l'association L'Ouvre-Tête qui organise la 7e semaine de l'environnement. C'est du 23 au 30 mars 2013. Lucas, Clémence et Isa sont avec nous. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est une édition qui est une édition de transition, un mot à la mode. Alors que vous en soyez un partisan ou une partisane zélée ou un ennemi acharné, c'est l'occasion de venir partager et défendre son avis sur la question et sur bien d'autres du 23 au 30 mars sur la pelouse de l'UM2 à Montpellier et en divers points de la ville. Une édition de transition aussi, peut-être au niveau de l'organisation de cette semaine de l'environnement 7e du nom.
Oui, alors la semaine de l'environnement, il faut savoir que c'est un événement qui est porté par l'association L'Ouvre-Tête depuis 7 ans déjà. Donc l'association L'Ouvre-Tête, c'est une association qui est composée d'étudiants d'un peu tous les campus de l'université qui se situe elle-même sur l'université Montpellier 2. Et donc ça fait effectivement, c'est la 7e édition de cette semaine de l'environnement. Donc de plus en plus, on s'est dit qu'on allait aller vers quelque chose d'un peu plus petit après les années précédentes qui avaient été extrêmement lourdes en termes d'organisation, en termes de budget. Cette année, on a décidé de réduire un petit peu la taille de l'événement et puis peut-être que on va parler tout à l'heure des petites difficultés administratives qu'on a eues avec les différentes administrations et qui du coup nous ont aussi mené vers ce chemin-là. Et donc rapidement, sinon l'association L'Ouvre-Tête, c'est une association qui a été fondée en 2006 à la suite des mouvements sociaux contre le CPE par des étudiants. Et donc à partir de ce moment-là, on a décidé d'organiser la semaine de l'environnement qui existait aussi dans d'autres villes de France au même moment. Et donc cette association L'Ouvre-Tête, c'est pas que la semaine de l'environnement, c'est des bénévoles, des étudiants, des non-étudiants qui toute l'année sont engagés sur une grande diversité de projets. Ça va de l'alimentation étudiante, proposer des AMAP sur les campus, proposer des épiceries, proposer une alimentation alternative dans les restos universitaires, mais aussi des bibliothèques, des mardis culturels, toutes sortes d'animations qui sont portées exclusivement par des bénévoles sur des subventions publiques. Donc voilà, je pense que pour ce qui est de l'association L'Ouvre-Tête, une petite présentation était nécessaire.
Absolument, absolument. Alors vous avez un peu réduit la voilure cette année, mais on pourrait pas trop s'en rendre compte parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent pendant cette semaine. On va dire pour se mettre en bouche, ça démarrera notamment ce samedi 23 à 18h au Calage, rue des Mazes à Montpellier, avec le vernissage de l'exposition Prisonnier de vos armures, avec un apéro bio local et de saison à prix libre, en contemplant les dessins directement venus de Notre-Dame-des-Landes, au lieu aussi du militantisme. Et du mouvement citoyen.
Oui, et je pense que là, vous avez aussi oublié un petit peu que ça va commencer samedi matin. Et ça commence notamment par l'inauguration d'un jardin éphémère aux Cévennes, avec des bénévoles de l'association Ouvre-Tête qui s'occupe de l'éducation à l'environnement, et avec l'association Lapieux qui, elle, s'occupe de l'éducation à l'environnement en milieu urbain. Donc c'est à partir de 10h samedi matin pour effectivement se terminer samedi soir au Calage, parce que nous n'avons pas oublié la ZAD, bien entendu, et nous avons une belle collection de photos qu'il faut absolument venir voir et aussi en discuter. Nous serons là tous ensemble samedi soir.
Voilà, et puis pour revenir sur le matin, c'est à la Maison pour tous Fanfone Guilherme que ça se passera à partir de 10h du matin, de 10h à midi, des ateliers de fabrication de bacs à fleurs et légumes avec les habitants, un repas tiré du sac à midi, musique et procession jusqu'au cœur du quartier de 13 à 14h. Ça c'est donc dans le cadre de cette journée d'inauguration de l'association Le Jardin des Cévennes. Un atelier de permaculture aura lieu à 14h avec une visite guidée, ça sera sur inscription. Alors pour s'inscrire, sde2013@ouvretete.l'autre.net, il le redit le garçon, sde2013@ouvretete.l'autre.net. Et puis l'après-midi, il y aura des visites de lieux alternatifs de Montpellier qui se rejoindront donc tous au Calage ce samedi 23.
Et puis
je ne suis pas démenti, vous avez vu un peu.
Non, non,
je n'ai pas fait une erreur. Trop fort les garçons.
Je crois qu'on va l'embaucher pour la com, non, pour la prochaine SDA.
trop cher. Et puis ça se poursuit dimanche 24 avec un forum associatif. Là, ce sera en partenariat avec la librairie Scrupule, où plein d'associations vont être présentes pendant toute la journée pour être visibles et communiquer auprès des citoyens, des populations.
Voilà, ce forum associatif, il a lieu à Plan-Cabane, donc un peu au croisement entre le centre-ville et puis les quartiers extérieurs de la ville. Pour nous, c'était important d'avoir un endroit qui permettait vraiment de toucher une population qui n'est pas forcément, sinon, consciente de toutes ces problématiques, qui ne participe pas forcément aux réflexions qu'on a, nous, sur l'ensemble de l'année, sur toutes ces problématiques des alternatives écologiques et sociales. Donc voilà, sur le forum des associations, on essaye de proposer, de mettre en valeur un maximum le tissu associatif de la ville de Montpellier. Ce sont toutes sortes d'associations, de collectifs qui sont investis dans les alternatives, que ça soit dans l'environnement urbain, dans l'environnement extra-urbain, que ça soit la lutte contre l'exploitation du gaz de schiste ou la lutte contre le nucléaire civil. Donc voilà, une grande diversité d'associations sur toutes ces thématiques, des ateliers qui vont être proposés aussi, et puis comme toujours, pour que l'ambiance soit au top, une restauration à prix libre, bio-locale, préparée par l'association, le collectif avec qui on est en partenariat pour l'ensemble de la nourriture proposée pendant la semaine. C'est le kiff Caravanola, qui du coup s'occupe de nous faire la nourriture pendant toute la semaine à partir de producteurs dont on a sélectionné soigneusement l'origine pour vous. Et donc toute cette journée du forum avec toutes sortes d'animations, de débats, de concerts et de fables, de contes
et de
musique.
Et je rajouterais que ce forum associatif, il est co-organisé avec la librairie Scrupule, qui est basée dans Figrolles, donc tout près de la place Plan-Cabane où on fait le forum. Et ça, c'est aussi une manière de montrer qu'on travaille avec tout le tissu associatif local. On s'attache à ce que, enfin, disons que la plupart des animations sont co-organisées avec d'autres associations. Et pour ça, nous, c'est important de recroiser les capacités et le travail de chacun tout au long de l'année, de mettre en valeur aussi tout ce qu'ils font et de s'appuyer aussi sur leurs compétences.
Voilà, lessive populaire, bourse d'échange de semences, atelier de production de semences paysannes, animation menée par les éclaireurs de France, non de là. Nuts pour l'upcycling, que font-ils là? Starting Block, le réseau Grapp et la Fibala, un joyeux micmac qui se poursuivra aussi avec du théâtre de rue à 15h avec les mauvaises herbes. Ça, ce sera donc place du Plan-Cabane. Et puis lundi 25, il y aura un rendez-vous à 18h30, un rendez-vous pas poli puisque ce sera un repas insolent, un repas autour d'un peu de géopolitique, c'est ça?
Oui, absolument. Donc le repas insolent, c'est un concept, c'est un jeu collaboratif ou coopératif, hein, selon les préférences de chacun. C'est un jeu, donc c'est sur inscription, hein, parce que tout le monde ne peut pas participer à des jeux comme ça. Et c'est pour mettre en valeur toutes les inégalités qui existent dans le monde, C'est une application un peu de ce qui se passe en vrai dans le monde à l'échelle d'un repas, repas insolent, où on en ressort avec les idées un petit peu plus claires sur ces thématiques-là.
Voilà, toujours sur inscription à sde2013@ouvretete.l'autre.net, sans apostrophe, l'autre. Et puis, ce sera donc à 18h30, ça se passe à Super Gros Montpellier, place Pierre Vallat, arrêt Pierre Vallat, ou bus numéro 16, pour ceux qui prennent le bus. À 19h30, il y aura une projection débat à l'UM2 sur la grande pelouse autour du film de l'association Diversité Paysanne, Paysans des temps modernes à la rencontre des diversités paysannes, suivi évidemment d'un débat avec notamment Sébastien Passarieux, qui est-il ?
Sébastien Passarieux est un étudiant de Supagro qui, avec son ami, sont partis quelques mois l'année dernière pendant l'année de césure, hein, qui propose aux étudiants de Supagro faire le tour des paysans, donc sud de la France et une partie de l'Afrique, pour mettre en valeur les différentes pratiques, etc. Et ça rentre un peu dans le thème de la transition via ces pratiques agricoles qui sont mises en place, etc. Qui sera là pour nous en parler.
Et puis le soir, toujours ce lundi 25, ce sera Michi Bichi pour un concert jazz blues un peu déjanté. Yé Mystic Creek, orchestre créole de 9 musiciens. Donc ce sera au Mojomatic, non loin de chez nous. Mardi 26, il y aura journée Troc des Savoirs, animation d'éducation à l'environnement de 12 à 16 heures, un pique-nique aux alentours de midi, une déambulation souriante, place de la Comédie, rendez-vous à 16 heures. Et puis une projection débat sur transition en pays aventure lotoise en présence de la réalisatrice Lou Jomier, suivi d'un débat, et puis ça se poursuit tout au long de la semaine. On n'aura peut-être pas le temps d'évoquer tous les rendez-vous, mais il y aura des ateliers de yoga, des fables du pistil. Si vous voulez en savoir plus, eh bien rendez-vous sur le site ouvre-tête.fr où on peut retrouver ce magnifique programme très très recyclable avec des abeilles, des couleurs pastels et des textures amusantes, tout ce qu'il faut pour passer une bonne semaine de l'environnement finalement.
Oui, alors effectivement, on a l'impression que tous les ingrédients sont réunis pour participer à ce super événement qui a lieu depuis plusieurs années. C'est un peu, je dirais, l'événement phare de la vie associative montpelliéraine, en tout cas en termes de public. Je pense que depuis plusieurs années, on est un des événements qui touche un des plus larges publics. Donc pour nous, c'est important de maintenir cette dynamique-là, de rester justement en lien avec tout ce tissu associatif, de rester indépendant au niveau de l'organisation. Et c'est là que cette année, on se heurte un petit peu, comme tous les ans, mais cette année particulièrement, à des problématiques qui sont celles rencontrées par toutes les associations et tous les collectifs de la ville de Montpellier. Ces problématiques, c'est une diminution drastique des subventions, c'est une diminution drastique des accords pour l'occupation de l'espace public. Et donc finalement, nous, on a envie que cette semaine, la réflexion, la thématique de cette semaine, c'est la transition. Mais pour nous, la thématique de cette semaine, c'est aussi la réflexion sur la possibilité d'une véritable vie associative dans la ville de Montpellier, une vie associative engagée, une vie associative qui n'est pas juste à la botte des pouvoirs publics, qui se veut aussi contestataire et qui pour autant a quand même besoin du soutien des administrations, d'être accompagnée. Et là je pense surtout aux associations étudiantes comme l'Ouvre-Tête et comme il y en a d'autres sur les campus, parce que c'est des associations qui subissent forcément un fort roulement au niveau des bénévoles qui y travaillent et donc qui ont besoin d'être soutenues, parce que c'est des associations qui finalement sont formatrices pour les étudiants aussi, leur apprennent ce que c'est la politique locale, leur apprennent ce que c'est la vie associative et les initiatives associatives. Donc voilà, nous, ce qu'on demande, c'est plus d'accompagnement de la part des administrations, plus d'aide, et pas seulement une aide financière, mais aussi une aide logistique qui pourrait et qui devrait, à notre avis, nous être apportée par les associations au vu de l'ensemble des projets qui sont organisés par ces associations sur les campus et sur la ville, au vu de l'impact positif qu'ont ces différents projets. Voilà, nous, c'est clairement ça qu'on demande, cette réflexion sur la semaine.
Et alors, dans le concret, on a été freinés. La conséquence, c'est que la soirée de clôture qui devait avoir lieu sur la fac de sciences est annulée. Il y a autre chose qui va se passer, et en amont de ça, on donne rendez-vous à un maximum de gens qui sont intéressés par ces problématiques-là, qu'ils soient citoyens, associations, collectifs, à venir discuter de ça en assemblée populaire et festive à 17h, vendredi 29, sur le campus de Triolet à l'UM2, sur la Grande Pelouse.
Eh bien, c'est noté. Espérons que le message soit passé dans les oreilles de nos édiles. On rappelle que c'est sur www.ouvre-tête.fr qu'on retrouve tous les détails de cette 7e semaine de l'environnement. C'est du 23 au 30 mars 2013. Lucas, Clémence, Isa, merci. Et à très bientôt sur les ondes de Divergence. Some more. Et dans cette auberge espagnole, c'est à présent Vincent Pourrageau qui nous a rejoint. Bonjour Vincent.
Eh bien bonjour Gilles.
Et alors tu t'es entretenu avec Xavier Mathieu et Jérôme Paltot, tous les deux auteurs du film documentaire La Saga des Conti qui je crois sort cette semaine.
Oui, ça sort demain. Alors je vais rappeler rapidement ce que c'est que l'histoire des Conti, même si bon, normalement tout le monde le sait un peu. Le 11 mars 2009, les 1120 salariés de l'usine de pneumatique continentale de Clairoy dans l'Oise reçoivent leur lettre de licenciement. Alors très vite, ceux que l'on va appeler les Conti vont lutter contre cette décision et puis contre la direction de Continental. Et Jérôme Paltot a filmé les Conti dès le début du mouvement. Et donc, demain sort ce documentaire. Alors, à l'intérieur, on voit la lutte parfois radicale, l'absence de soutien des confédérations syndicales et aussi les premières luttes européennes. Parce qu'il va y avoir, au bout d'un moment, une autre usine en Allemagne qui va subir le même sort. Donc, pour une des premières fois, ils vont organiser un train avec la CNCF. Enfin, voilà, tout ça est montré dans le documentaire. Ils vont aller en Allemagne. Et ce sera la première fois qu'il va y avoir une espèce d'unité franco-allemande contre le grand capital. Voilà, pour résumer. Donc, les Conti sont une fois de plus des ouvriers qui se battent contre des stratégies financières, bénéficiant à une poignée d'hommes. Ce qui distingue les Conti d'autres salariés d'entreprises fermées ou délocalisées, finalement, c'est qu'eux, ils ont plutôt bien gagné leur lutte. Voilà, ils se sont dit, si on la ferme, on n'arrivera à rien, donc on va se battre. Alors, on a rencontré Jérôme Paltot, le réalisateur de la saga des Conti, et Xavier Mathieu, porte-parole des Conti. Alors, c'est à lui que Pujadas avait lancé ça.
Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoy. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences?
Vous plaisantez, j'espère?
Ah oui, il est très virulent, Xavier Mathieu.
En même temps, c'est Pujadas, quoi. Genre, pose-moi une question à la con et je te donnerai une réponse.
C'est à ce moment-là que Mélenchon avait dit ça me dégoûte la quête du pouvoir, parlant de Pujadas. Xavier Mathieu, dans ce que vous allez entendre, dans l'interview que vous allez entendre, quand il parlera du saccage de la sous-préfecture, parlera d'un coup de vent. Voilà, un doux euphémisme donc, pour parler d'un événement qui a fait parler des Conti et qui a fait qu'ils ont gagné leur combat. On écoute cette interview.
L'usine est implantée ici depuis 75 ans. Ça fait partie du patrimoine de la région.
J'étais contente d'aller travailler à Continental.
J'adorais mon boulot.
C'est comme une énorme boîte avec des bons salaires.
11 mars 2009, le fabricant de pneus Continental vient d'annoncer la fermeture de Clairoy dans l'Oise. Les 1120 salariés de ce site, revenus aux 40 heures contre la promesse du maintien de leur emploi jusqu'en 2012, étaient devenus le symbole du « travailler plus pour gagner plus ».
J'habite le village où se trouve l'usine. Jérôme Paltot, réalisateur du film « La saga des Conti ». Le matin du 11 mars 2009, j'ai découvert un peu en même temps que les médias, d'ailleurs par les médias, mais j'étais physiquement sur place et j'apprenais par les médias dans la voiture que l'usine fermait. Et j'ai vu tous les ouvriers assemblés devant et ça a été un déclic. Et l'après-midi même, je suis allé chercher une caméra et j'ai commencé à tourner.
Vous avez un rapport particulier quand même avec les médias. Donc est-ce que ça a été simple d'accepter quelqu'un qui est là toujours, puis dans des moments assez tendus?
Non, ça a été un peu compliqué pour lui au départ. Je pense qu'il a été assez maltraité.
Xavier Mathieu, ex-porte-voix de mes camarades de Conti. Parce qu'on avait des choses à organiser, des choses qu'il fallait organiser discrètement, secrètement. Et je pense que sans le pouvoir de psychologie et de rapport humain que Jérôme a avec les gens, il n'aurait jamais pu réaliser ce documentaire. Je pense que pour réaliser du documentaire, même pour la fiction, mais je crois qu'encore plus pour du documentaire, il faut être un grand psychologue, apprendre à déjà aimer les gens. Si on n'aime pas les gens, on ne peut pas faire ce métier correctement. Pour avoir leur confiance, ça s'est fait petit à petit. Il a su, à des moments, reculer de trois pas parce qu'il voyait que ça ne marchait pas, que ça ne pouvait pas passer, malgré que c'était des choses importantes. Il a su, Il a su ronger son frein, reculer de 3 pas pour pouvoir réavancer le lendemain. Je pense que c'est un vrai travail, ouais, c'est un vrai travail de psychologie que de faire du documentaire, surtout dans des conditions extrêmes comme celle-ci.
C'est la crise.
Et j'étais le petit syndicaliste, aller râler pour ouvrir ma gueule. Mais juridiquement, j'étais à la rue.
J'appelle Roland au secours.
Continental a fermé 30 usines en 10 ans. On peut les faire bouger à condition de créer un rapport de force.
Ah ouais, mais Roland, c'est... Moi, ce mec, avant de l'appeler, je le connais que par les médias, je connais que par la lutte qu'il a pratiquée avec les chaussons. Et quand on me dit, pour vous, quel a été le tournant de cette lutte, pour moi, le tournant, c'est le premier jour où je ne sais pas pourquoi j'appelle ce mec, parce que je me dis... j'y arriverai pas tout seul, c'est plus du travail syndical pur à l'intérieur de l'usine où tu vas gueuler pour avoir une augmentation de salaire. Là, c'est une stratégie, c'est des mecs en face de toi qui vont avoir des tonnes d'avocats et des avocats taillés. Et ce qui est même incroyable, c'est que même au niveau des négociations, au niveau de tout ça, moi, on a vu les 3/4 du temps Spirko donner des leçons aux avocats. Leur expliquer comment il fallait faire, leur expliquer les lois, leur expliquer que là, ils racontaient des conneries parce que c'est pas comme ça qu'il fallait faire. C'est un mec qui a une instruction juridique, syndicale, monstrueuse. C'est un mec de... D'ailleurs, je l'explique dans le film à un moment. Il y a plein de gens qui commencent à jaser dans les ateliers en disant « Ouais, c'est un mec de lutte ouvrière, on va se faire bouffer, tout ça. » Et moi, personnellement, je sais qu'on a besoin de ce mec pour son expérience. Et en assemblée générale, devant 800 personnes, je dis « Il y en a qui dégueulent sur Roland. Maintenant, je vais vous dire un truc. Moi, je suis là. J'ai besoin de Roland. Si vous décidez qu'il s'en a, c'est vous qui allez décider en assemblée générale. C'est vous qui allez décider. Mais s'il s'en va, je m'en vais aussi. Donc, vous faites le choix. » Mais et c'est 800 mecs qui lèvent la main et qui disent « il reste ». Et c'est énorme. C'est énorme parce qu'ils baissent la tête. Et d'ailleurs, il y a même une personne, un cadre, qui va vers lui et qui lui dit dans l'oreille « t'es content, gros con, t'as gagné ». Et le cadre se barre. Parce que le mec, c'était une des personnes qui faisait courir des rumeurs dans l'atelier et tout. Et qu'on ait fait voter ça en assemblée générale devant la presse, que Roland était là et que c'était l'ensemble des personnes qui le décidaient, c'était bien. Toutes nos assemblées générales, où étaient votées les motions, tout était fait à l'extérieur de l'usine, devant la presse, devant tout le monde. Il n'y a rien qui a été fait en catimini. Alors le comité de lutte, on avait organisé un comité de lutte où tout le monde pouvait venir, syndiqués, non syndiqués, tous ceux qui voulaient y venaient. Et on s'organisait, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, pourquoi, voilà, on décidait des motions. Et l'après-midi, les motions, les actions étaient votées en assemblée générale à l'extérieur, devant tout le monde, devant la presse, tout ça. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y avait un truc qui tournait pas rond, des gens qui faisaient courir des rumeurs, on réglait le problème. Vous savez, quand on a créé ce comité de lutte, il y avait un syndicat chez nous qui était la CFTC, qui représentait 55% de l'usine, des voix. Et le mec, on lui a dit, bah, écoute, on va faire un comité de lutte. Et puis, toi, nous, les syndicats, on redeviendra ce qu'on est toujours prévu à la base, c'est-à-dire être porte-parole des ouvriers. On n'est pas des décideurs. Et lui m'a regardé, il m'a fait, mais attends, mais moi, je représente 55%. C'est pas les gens qui vont décider, c'est moi qui va décider pour les gens. Le mec me dit ça. Il me dit, c'est pas les gens qui vont décider, c'est moi. Et je lui ai dit simplement, je lui ai dit, écoute, il n'y a aucun souci. Cet après-midi, à l'Assemblée Générale, tu prendras le micro et tu leur diras que tu vas décider pour eux et que c'est pas eux qui décideront. Mais l'après-midi, je ne l'ai jamais revu. Je ne l'ai pas vu et non seulement il n'a pas pris le micro, mais on ne l'a pas vu. Donc ça a été assez simple. Vous savez, ce mec, une semaine avant la fermeture de l'usine, il se faisait le porte-parole de l'entreprise pour aller jurer partout dans les ateliers que l'usine ne fermerait pas. Il a même été à France 3 une semaine avant en disant « Si l'usine ferme, je démissionne du CE ». Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Mais il en était même là. Enfin, je veux dire, Jérôme, il a été très gentil avec lui. Il a simplement voulu montrer que oui, il y a des syndicats qui croient aux politiques, qui croient à leur organisation syndicale, à leur haute direction syndicale. Je ne parle pas de la base, moi. Et que voilà, on a montré ce mec qui croyait, et que voilà, il a cru aussi qu'en travaillant plus, en gagnant plus, en acceptant de perdre en 2007 sa prime de vacances, sa prime de fin d'année, en revenant à 40 heures payé 35, qu'il allait sauver sa boîte. Et la preuve, c'est que l'accord, il l'a signé en 2007, en nous garantissant la pérennité du site jusqu'à 2012. Et en 2009, on nous annonce la fermeture de l'usine. Ce qui fait que c'est doublement perdant, parce que les gens, ils ont accepté de perdre du salaire. Et au bout du compte, quand ils ont été licenciés aux ACEDIC, les ACEDIC se sont basés sur les derniers salaires qu'ils ont eus. C'est-à-dire qu'ils ont non seulement perdu du salaire pendant 2 ans, mais en plus, les ACEDIC ont calculé sur un salaire qui était en baisse. Voilà, c'est pour ça que le chantage à l'emploi, c'est une connerie monumentale. On ne peut pas rivaliser par rapport aux pays de l'Est, et qu'on laisse 10 centimes, 20 centimes ou 1 euro, ça change rien. Il faut surtout ne jamais rien laisser. Rien. Il faut se battre, c'est tout.
Alors effectivement, il y a cette personne, la CFTC, qui a un tout petit rôle, qui dit « bon, oui, on peut espérer que... » Mais il y a surtout vous, hein. Enfin, vous parlez carrément de Thibault en lui disant « mais ce mec-là, il me connaît pas ». Enfin, vous avez des mots quand même assez durs. Et puis effectivement, tout le long du documentaire, on voit le comité de lutte, on voit quelque chose qui se crée, mais on voit jamais la parole de même que vous auriez pu prendre, parce que peut-être qu'il a parlé dans les médias, hein, Thibault, parce que vous étiez quand même de la CGT. Hein. On voyait vous aviez l'autocollant, voilà. On voit effectivement ce petit divorce, hein, dans, en tout cas, cette particularité, cette singularité dans la lutte des Contis.
Thibault, il a prononcé le mot continental une fois en 3 mois. C'est-à-dire qu'il a fait un article dans le courrier Picard quelques jours après la fermeture de l'usine. Mais le problème, c'est que dans les directions syndicales, ce qu'ils ne supportent pas, c'est de voir, dès qu'ils sont venus, il y a quelques mecs de la FEDE qui sont venus les premiers jours, enfin au bout d'une dizaine de jours. Et quand ils ont vu Roland Spierko dans le local, ils se sont dit « c'est mort ». Parce qu'ils ne veulent pas des gens de lutte ouvrière, ils ne veulent pas des gens d'extrême-gauche, ils veulent tout manigancer, ils veulent tout mener. Et voilà. Puis après, il y a eu le premier clash, on l'explique dans le film, quand les confédés... Nous, on envoie une lettre au président de la République en lui disant « mercredi, on va à Paris, que vous nous acceptiez ou pas, on monte à Paris ». La veille, on n'a toujours pas de réponse de l'Élysée. Les directions syndicales nous appellent pour nous dire qu'ils ont une place de réservée à l'Élysée, qu'ils sont invités. On lui dit au mec, toi t'es invité, nous on ne sait même pas si on l'a. Et le mec me dit oui, enfin, sauf qu'il y a un problème, c'est qu'ils veulent que 2 personnes par organisation syndicale. Donc vous êtes 2, faut en virer un et nous on prend la place. Je dis ça va pas, non. Je dis en assemblée générale, il avait été voté qu'il n'y a personne d'autre que les représentants des assemblées générales qui discuteront pour eux et personne d'autre ne viendra. Et voilà, il y a eu un clash et voilà, ça a été. Et c'est là-dessus où les directions syndicales nous ont complètement lâchés. Alors après, quand j'insulte Thibault au mois d'août, je traite de racaille, mais c'est pas Thibault que je traite, c'est l'ensemble des têtes des directions syndicales, tous autant qu'ils sont. Quand on va manifester à la place Vendôme au ministère de la Justice et qu'on réclame l'arrêt des poursuites des 7 qui sont poursuivis pour le coup de vent à la sous-préfecture...
La fureur des salariés de Continental. Ils viennent d'apprendre qu'ils sont déboutés de toutes leurs demandes. En quelques minutes, ils dévastent les bureaux, renversent les ordinateurs, une véritable mise à sac de la sous-préfecture de Compiègne.
Une personne de la Confédé qui me répond que la radicalisation, c'est pas dans les méthodes de la CGT, et nous soutenir, ce serait cautionner ce qui s'est passé. Et quand le mec de France Info m'appelle 3 semaines après et qui me dit « Tiens, qu'est-ce que vous allez faire bientôt ? La CGT, la Confédé va vous proposer un poste », je lui ai expliqué que ça se passerait pas tellement comme ça, quoi. Donc voilà, j'ai l'interview sur Thibault et je dis que Thibault, pendant cette période-là, en 6 mois, était 8 fois à l'Élysée. Je pense que s'il avait voulu sauver la tête, si franchement Thibault avait voulu sauver la tête des 7, il l'aurait fait. Si vraiment il avait été voir Sarkozy en lui disant maintenant vous lâchez les mecs parce que ça va être le bordel, il l'aurait fait. Et je pense qu'il n'y en a aucun des 7 qui aurait été poursuivi.
C'est plus les syndicats qui ont décidé, c'est les gens.
Les confédérations aujourd'hui, c'est de la bureaucratie pure et simple.
Entre Thibault et moi, il n'y a rien. Il ne sait même pas que j'existe.
On laissera personne manœuvrer pour nous empêcher d'essayer d'aller au bout.
Moi, j'ai très vite compris comment marchaient les médias. Et en fait, j'ai compris qu'eux avaient besoin de nous pour faire des papiers. En gros, ils avaient besoin de nous et nous, on avait besoin d'eux. Et ça a été un rapport de donnant-donnant. On leur a jamais dit ce qu'il fallait qu'ils disent ou pas. On savait très bien que de toute façon, voilà, ça s'est toujours bien passé. Bon, à part avec TF1 qui a, qui a oublié sur 8 télés qu'il y avait, qui a oublié de flouter les images. C'est les seuls à avoir oublié de la sous-préfecture. Mais voilà, c'est pas le même rôle. Lui, il est là pour raconter l'histoire dans ce qui s'est vu et surtout dans ce qui s'est pas vu. La stratégie de la lutte. Pourquoi cette lutte, elle a été différente des autres? Parce que elle a été stratégiquement différente. On s'est pas contenté de faire ce que vous voyez dans les médias. C'est les manifestations qu'on a fait, tout ça. Mais on voit pas vraiment dans les médias la création du comité de lutte. Enfin, tout ce qui est l'organisation, la stratégie de cette lutte. Et je pense que là, Jérôme, il y a même, on peut même dire que même au sein des ouvriers de Continental, il y en a 80% qui ont appris des choses en regardant le documentaire. Parce qu'il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas voir. Il y a des choses... Bon, tous décidés en Assemblée Générale, c'était le plus démocratique possible. Il y a la façon dont c'est organisé les projets, les décisions, les motions, tout ça, ça se faisait en comité de lutte, dans comité restreint. Voilà, c'est pas le même rôle du tout. Lui, les médias, c'est rôle instantané, c'est le buzz, c'est montrer, comme on voit en ce moment, un mec en haut d'une grue pendant 2 jours, et après on n'entend plus parler. Lui, il raconte une histoire, ça laisse des traces. Lui, il est là pour laisser des traces, et je pense que c'est vachement important.
Il va falloir qu'on leur montre ce qu'on a dans le froc, la détermination et les couilles.
Arriver à rassembler tout le monde. Faire 40 sens, ça crée un problème social et politique.
On savait très bien qu'on n'avait plus qu'un mois pour crever, quoi.
Les patrons que tu passes la sous-préfecture, ils n'ont rien à secouer. Faut aller les taper au portefeuille.
Vous avez fait un nombre incalculable, j'imagine, d'images. Vous en avez choisi certaines pour illustrer ça. Et le fameux buzz, c'est un moment où vous appelez la rédaction de France 2. Parce que vous avez besoin, effectivement, que ça ait du poids, hein, vos actions. Donc vous avez choisi de nous montrer ces instants, finalement, où on appelle une rédaction, on dit « on va aller là-bas, est-ce que ça... » Oui, ça va être spectaculaire, enfin, vous êtes obligé de donner des garanties, hein. ça vous le montrez bien. J'imagine que vous aviez plein d'exemples comme ça, hein. Vous avez sans doute fait des sélections dans vos rushs.
J'ai voulu montrer effectivement aussi les rapports qu'entretenaient les gens du comité de lutte avec la presse, hein. Donc, à la fois d'ailleurs sur cet événement-là, qui était l'occupation de l'usine de Sarreguemines, mais aussi sur d'autres événements qui ont montré d'ailleurs qu'il y avait aussi beaucoup d'intelligence dans l'organisation de cette lutte, des événements tels que, par exemple, le départ du Paris-Roubaix, qui a été co-organisé entre le comité de lutte et l'organisation de la course. Donc voilà, il y a aussi tout un déploiement d'idées, d'un foisonnement d'idées, un gigantesque forum, et puis les gens se sont révélés aussi à travers cette lutte, et finalement on fait fonctionner l'imagination. Donc ça, j'ai voulu aussi le mettre en lumière. Les thèmes qui sont évoqués dans le film sont innombrables, mais celui-ci, effectivement, j'ai voulu appuyer dessus. Maintenant, je dirais que cette histoire-là, elle est un petit peu intemporelle. Donc, peu importe de savoir il y a combien de temps ça s'est passé, ou de savoir qui était le pouvoir politique en place à l'époque, parce que de toute manière, elle illustrerait de la même façon aujourd'hui comment peut s'organiser un conflit social, et surtout quelles seraient les relations avec le pouvoir.
De l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Ne
quittez pas. S'ils sont prêts à négocier, tambour battant jusqu'au bout.
Les Français, quand ils négocient, ils ne se coupent pas pour l'ordre du jour. C'est bien égal.
L'accord doit être signé avant de présenter au CCE.
On sait qu'on a été soutenu, même par rapport au saccage de la sous-préfecture. Aujourd'hui, il y a une loi d'amnistie, là, ils sont en train de se demander qu'est-ce qu'ils vont mettre dedans. D'ailleurs, est-ce que je vais faire partie de cette loi d'amnistie, j'en sais rien. Et quand je vois le gouvernement, il y a Benoît Hamon qui est venu, il y a Cécile Duflot qui sont venus témoigner en tant que témoin de moralité au procès du saccage de la sous-préfecture, et que ces gens-là se posent la question de savoir qui va être amnistié ou pas. Quand on voit que je suis encore poursuivi en justice, par exemple, pour le refus de prélèvement ADN, je suis en cassation, Alors que Hollande a envoyé une porte-parole nationale à mon procès au prélèvement ADN pour jurer au grand jamais que cette loi, c'est eux qui l'avaient mise en place en 2001 et en 2003 et qu'elle était exclusivement réservée aux violeurs, aux pédophiles, à la violence à la personne, et quand il reviendrait au pouvoir, il la remettrait dans cet état. Mais voilà, le pouvoir politique, ils profitent, ils sont là. Bon, après, il y a des gens sincères. Je pense que de lutte ouvrière au front de gauche, même certaines personnes du PS, l'aile gauche, même Benoît Hamon, Gérard Filoche au niveau du PS, des gens qui étaient à peu près sincères, même Montebourg avant d'avoir baissé sa culotte suite aux deux, trois histoires de Gendrange, par exemple. Je pense que jusqu'à ce moment-là, il était, quand il demandait la nationalisation et tout ça, je pense qu'il était assez sincère. Puis qu'il a vite baissé son froc. Je pense que ce mec, par exemple, il aurait été beaucoup plus grand s'il avait démissionné à cette période-là. Je pense, à ce moment-là, je pense que ça l'aurait grandi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Bon, après, les pouvoirs politiques, ils sont... Nous, on les a pris quand on a eu besoin. On n'a jamais dit à personne, ne vous occupez pas de nous. On n'a jamais dit aux politiques ni aux directions syndicales, on ne veut pas que vous vous occupiez de nous. On leur a dit, occupez-vous de nous si vous voulez, mais jamais on arrêtera notre lutte pendant ce temps-là. Ne venez jamais nous dire, arrêtez, on va négocier pour vous. Jamais de la vie. On leur a dit, vous voulez faire des choses, faites-le, mais nous, jamais on arrêtera. Ne nous posez jamais ce genre de conditions, ça ne marchera pas. Voilà.
Continental, il va balancer à peu près 200 millions d'euros dans
le film sort demain dans les salles. Voilà, le film des Conti sort demain. Merci à Vincent Pourageau et désolé pour cet enchaînement à chier. Demain soir sur la scène de l'Antirouille, c'est une soirée sonore libre et Kangourou Productions qui vous attend avec elle, Dirty Solidero, Abyssini Club et Cosmic Citrouille. C'est à l'Antirouille et c'est Rachid El Armi qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors, deux, trois mots sur sonorlibre.com, une structure basée à 7.
Tout à fait. Alors, depuis quelques temps, Sonore Libre est basé sur la commune de Sète. On était sur Montpellier pendant quelques temps et puis on a décidé de se déplacer. Donc c'est une structure de production, en tout cas on a plusieurs compétences. On est bien sûr dans un premier temps, on fait du soutien à certains groupes locaux, notamment comme Etioda, comme le Quintet Formel qui sont basés sur Montpellier, un artiste aussi qui est d'envergure un petit peu nationale qui est Emmanuel Anvin, et puis surtout des artistes qui sont issus de la scène on va dire rhône-alpine entre guillemets, avec El Dirty Sonidero, Sonore Libre produit, manage, book, et puis Cosmic Citrouille qui est un artiste aussi issu de la scène on va dire du Languedoc, de l'Aveyron et puis de Rhône-Alpes, voilà.
Alors management, booking, soutien, production, etc. Comme beaucoup de structures d'ailleurs qui œuvrent dans les musiques ou les musiques actuelles plus généralement. Qu'est-ce qui serait la spécialité finalement de Sonore Libre?
Bah, Sonore Libre, en fait, on se base réellement sur... On fait office de label, de producteur. C'est-à-dire qu'on est réellement là pour soutenir des artistes qui sont en voie de développement, qui ont un projet, qui veulent réellement évoluer dans le professionnalisme, entre guillemets. Et puis, c'est surtout aussi la diffusion, puisque c'est quand même... je suis vraiment attaché à ces compétences-là. Et puis, c'est une prestation qui... au fur et à mesure du temps, depuis une dizaine d'années, m'a toujours énormément plu. Et on est là vraiment pour diffuser des artistes qui en ont besoin et qu'on soutient, quoi.
Voilà, une soirée organisée en partenariat avec Kangourou Productions, qui sont eux à Montpellier. Pareil, avec l'organisation de pas mal de choses, des découvertes, des gens proches de, on va dire, Le Fray, de Monsieur Orange pour le côté Jarring Effects. Là, pareil, on remonte dans la vallée du Rhône. Des implications citoyennes à travers des forums, etc. Deux structures qui sont partenaires depuis un certain temps.
Oui, Kangourou, en fait, on se connaît depuis des années, puisqu'on était, on a été militants des premières heures, on va dire, hein, dans les musiques actuelles. Et puis, on s'est retrouvés, en fait, hein, le fait de s'être déplacé de Rhône-Alpes à la région Languedoc. Avec Kangourou, on s'est un peu retrouvés. C'est notamment plus particulièrement avec Joachim Dumont, qui est un des piliers de cette structure, avec qui on a décidé de collaborer, puisqu'aujourd'hui, la mutualisation des moyens est très, très importante pour des structures comme les nôtres, qui ont des fonds de roulement, on va dire, très minimes. Et je crois que c'est un petit peu la majeure partie des structures font, c'est-à-dire elles mutualisent leurs moyens, autant dans le contexte financier que de la programmation, et puis sur tout ce qui est militantisme, voilà, en général, quoi.
Alors demain soir, sur la scène de l'Antirouille, donc il y aura El Dirty Sonidero, qu'on écoutait en introduction, et il y aura aussi un garçon qui évolue entre l'Aveyron et l'Hérault, et qui s'appelle le Cosmic Citrouille. L'électro-dub Pouette Pouette, c'est lui qui le dit, de Cosmic Citrouille, ça, c'est la formation qui va ouvrir cette scène demain soir à l'Antirouille, de 21h30 à 21h05. Le plateau est super calé à la minute près. Et puis celui qu'on écoutait tout à l'heure au début, eh bien, c'est lui qui refermera la soirée, El Dirty Sonidero. Un mot sur Cosmic Citrouille, il est tout seul?
C'est
un one man band en quelque sorte.
Tout à fait, c'est quelqu'un qui évolue depuis des années, ouais, je vais me rapprocher du micro. Et en fait, il apporte ce côté électro, mais qui est vraiment, c'est un melting pot en fait. Hein,
texte aussi sur certains titres.
Totalement, ouais. Et puis il y a un contexte humoristique, et puis il y aura une intervention d'un danseur hip-hop qui est jeune et qui apparemment est un petit érudit de la danse hip-hop, donc qui sera là. Voilà, donc Cosmic Citrouille, c'est vraiment un artiste, encore une fois, qu'on a envie de faire découvrir, parce qu'il a du talent, et je pense que depuis toutes ces années, ayant fait quand même des premières parties assez exceptionnelles comme les Asian Dub Foundation, moi j'ai pu le suivre sur certains concerts où il faisait des premières parties où il mettait réellement en jambes le public, et ça a toujours été très très bien dans ce qu'il nous a diffusé, quoi.
Et puis il y aura donc Abyssini Club de 21h15 à 22h45. Là, ils sont assez nombreux, il y a des vidéos dont on peut retrouver les liens sur le site de Divergence qui sont assez édifiantes sur ce mélange, avec pas mal d'instruments, d'instruments électroniques aussi, un VJ graphiste, une rencontre, on va dire, entre le dancehall éthiopien et le dancefloor européen. C'est comme ça que c'est présenté?
C'est vraiment comme ça que c'est présenté. C'est-à-dire que la musique traditionnelle éthiopienne est quand même une musique qui est, c'est un petit peu le berceau, l'Abyssinie, c'est un petit peu le berceau de l'humanité.
Et puis les 70s en Éthiopie ont laissé mal de traces aussi.
Totalement, hein. Ouais. Dans les années 70. Et puis la musique éthiopienne, c'est un gros mélange musical. C'est du jazz, on retrouve les musiques africaines, le contexte même... afrobeat, hein, on va, mm-hmm. on va réellement parler d'afrobeat dans ce contexte-là. Et puis, bah, bien sûr, assisté par des musiques, par des MAO, quoi. Hein. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle de soirée Electro World, puisque on a tous ces artistes qui proposent des musiques traditionnelles, mais qui ont été réinvestis par la musique électronique. Et aujourd'hui, c'est quelque chose bah, qui est vraiment apprécié par un large public. Et on voulait faire découvrir ces artistes, notamment les Abyssini qui ont ce projet depuis à peu près un an et demi, qui tournent sur des festivals, qui ont tourné l'année dernière sur des festivals d'été. Et ça nous a permis de réellement les découvrir et aujourd'hui de pouvoir les diffuser dans des lieux comme l'Antirouille, qui sont des scènes qui commencent à devenir des scènes mythiques, quoi.
Voilà, c'est à l'Antirouille, c'est demain soir à partir de 20h, soyez-y vers 20h, histoire d'être sûr de trouver une place, si des fois c'est blindé.
Il y a des places, vous pouvez y aller.
El Dirty, Sonidero, Abyssini Club et Cosmic Citrouille, on se quitte avec Abyssini Club et eux-mêmes définissent leur musique comme de l'éthiotronique. Rachid, merci beaucoup de nous avoir rendu visite dans les studios de Divergence. On remercie Bruno Bertrand qui a réalisé cette émission, Gilles Bouget, Vincent Pourageau, vous remercie de l'avoir écouté. C'est une production Divergence FM qui vous souhaite une très bonne fin de journée, à la semaine prochaine. Salut.
Merci. Thank you.